Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Anne-Julie Rollet.
Bonjour.
Et de Anne-Laure Pigache. Bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes de la compagnie Les Harmoniques du Néon, basée à Grenoble. Et vous êtes ici pour ce week-end avec cette animation organisée par le comité des réjouissances et qui s'intitule Les Réjouissances. Vous-même donc êtes visible demain samedi, tout au long de la journée, dans un spectacle intitulé Vitrine. Vitrine, c'est un spectacle qui se déroulera donc à travers une vitrine, je suppose. Couper du contact avec le public
Du public, c'est-à-dire des passants?
Oui.
Pas du tout.
Non.
C'est en fait un projet où on propose au public qui vient nous voir de regarder la rue différemment, d'avoir un point de vue, d'avoir un regard sur la rue un peu précis et que nous... Avec notre proposition et nos outils, on transforme.
Pour ce spectacle, je suppose que vous gardez quelques petits secrets de cette proposition.
Ouais, de toute façon, il y a des trucs hyper techniques de fabrication qui ne sont pas très intéressants, mais l'idée, c'est vraiment qu'il se passe toujours quelque chose, même quand il ne se passe rien. Et qu'en fait, si tu ralentis ta propre manière de regarder ou d'écouter un endroit, des choses vraiment anodines peuvent devenir extraordinaires. Donc, du coup, nous, on essaie de se placer à cet endroit où on met le spectateur en condition pour qu'il puisse, avec nous, trouver tout insolite, improbable. Et puis, ce qui est super dans une vitrine, c'est que ça donne un cadre. Comme au cinéma, on s'amuse à recréer du cinéma, mais avec les aléas de la rue. Et du coup, avec un cadre, il y a le chant, le hors-chant, ce que tu entends mais que tu ne vois pas. Enfin, c'est une espèce de cinéma DIY, parce qu'on amplifie le son de la rue. Enfin, il y a tout un travail sonore. Le fait de fictionnaliser l'aléa de la rue se base beaucoup sur le sonore.
Donc, le public est invité à l'intérieur d'un lieu pour visionner l'extérieur à travers une vitrine.
Exactement.
Tout en tenant compte des contraintes actuelles, des distanciations sociales.
C'est ça. On met les gens à un mètre l'un de l'autre, je crois.
Voilà. Ouais. Et donc, ce qui vous amène à proposer plusieurs représentations tout au long de la journée, cela va de 10h, 12h, 15h, 17h jusqu'à 19h.
Oui, c'est tout ça. À fait. Et il faut réserver au numéro qui est sur le programme devant toi, parce que comme les jauges sont très petites... il faut téléphoner pour avoir une place et les lieux de rendez-vous ne sont donnés qu'aux gens qui ont réservé.
Alors, ce numéro, c'est le 06 58 33 27 91. Vous avez un petit peu amené le cadre de votre spectacle. Qu'est-ce qui vous a amené par quelle réflexion vous êtes amené à proposer ce spectacle?
En fait, c'est plutôt une situation qui nous a amené à penser ce spectacle. On s'est retrouvés à côté de Grenoble pour ce qu'on appelle un showcase, pour une exposition, dans une galerie d'art contemporain. Et il se trouve qu'il fallait inventer quelque chose pour l'espace. Nous, on avait envie d'inventer quelque chose parce que c'était un espace très particulier, avec justement une grande vitrine qui donnait sur la rue. Et on sait comme ça, en s'imprégnant un peu de l'espace, en écoutant, parce que donc, notre travail est beaucoup axé sur l'écoute, en écoutant ce qui se passe, on s'est mis à regarder derrière la vitrine. Et on a trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à travers justement, comme disait Anne-Laure, le cadre de la vitrine. Il y a quelque chose qui s'opérait comme un cinéma. Et on a eu envie de travailler avec ça, donc d'une certaine manière, toujours un peu en improvisant par rapport à ce qui se passe. et à jouer, vriller, surligner cet endroit-là. Mais c'est plutôt un hasard. C'est une situation.
On peut préciser aux auditeurs ce qu'est un showcase.
C'est précisément, c'est un moment un peu de performance, de représentation pour présenter une exposition.
C'est la première expérience que vous tentez avec Vitrine, ou alors vous avez déjà opéré dans d'autres villes ?
On a, du coup, la situation dont parlait Anne-Julie, c'était à Fontaine, à côté de Grenoble. En deux jours, on va dire, on a monté une performance. Donc là, c'était la première essai. Et suite à ça, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de le refaire ailleurs. Donc pour l'instant, on cherche encore une écriture qu'on pourrait estimer aboutie, même si c'est une écriture qui sera toujours ouverte à l'improvisation du réel. Mais du coup, on a fait plusieurs temps de recherche, de création à Bordeaux, Courberia à Grenoble, au Touvet en Isère. J'oublie des villes. On avait plein d'autres villes prévues, mais tout a été annulé avec le Covid. On devait aller à Saint-Gaudens, à Vitry, à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, à Chalon. Voilà. Mais en tout cas, l'envie, c'est de pouvoir explorer plein de contextes. C'est marrant d'ailleurs, en ayant commencé à travailler à Die, de sentir que c'est vraiment une autre manière de... En fait, il y a ce temps nécessaire pour se mettre au diapason d'un endroit. Et c'est pas juste une rue, dans des grandes villes, ça va être au niveau du quartier. Mais forcément, par exemple, à Grenoble, Courberia, c'est au bout d'une allée de tram où il y a une possibilité d'anonymat très forte. Et en fait, là, en étant à Die, parce que du coup, moi, je suis aussi devant la vitrine, donc je suis avec les passants en décalant un petit peu les choses. Et par exemple, être anonyme à Die, c'est hyper suspect. Parce que, en fait, puis même juste en se baladant, on se rend compte que tous les gens qu'on a vus passer devant la vitrine, après, quand on va boire un coup Place de la République, tout le monde est là. Et du coup, la question d'être anonyme, elle est différente. Moi, je peux avoir l'air un peu schnock, des fois, un peu... On ne sait pas bien si je suis un peu à côté ou si je suis consciente de ce que je fais. Et pareil, je sens qu'en fait, ici, on sait un peu qui sont les gens. Du coup, c'est marrant de jouer avec quel anonyme on peut être à Die.
Il est impératif d'opérer que par une seule vitrine, je suppose.
Oui, enfin, il est impératif dans le sens où c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Parce que, en fait, de mettre un cadre, de contraindre le regard, créer une situation de précision d'un lieu, tout d'un coup, quelque chose qui ne serait pas attirant au départ, on ne regarderait pas. Devient un espace potentiellement intéressant avec donc sa lumière, son rythme, ses couleurs, son énergie, un lieu qui est en fait un lieu, c'est toujours très vivant même quand il se passe pas grand chose.
Pourquoi le titre vitrine ? Est-ce que ça amène à un côté mercantile ? Est-ce qu'il y aurait un probable échange entre ce qui est proposé à l'extérieur en vente, par exemple?
Non. C'est une vitrine, c'est plutôt dans l'idée d'un regard, voilà, d'une fenêtre. Après, ce qui est aussi un peu rigolo, c'est que le public est donc l'objet qui est dans la vitrine, ce qui est l'objet exposé. Ce qui permet aussi de pas se mettre dans une situation de voyeurisme, en fait, de regarder la rue à l'insu des passants, à l'insu du monde, parce qu'il y a un double mouvement, en fait, parce que quand on est dans une vitrine, on devient un peu aussi exposé et regardé, donc voilà, ça nous intéressait, cette relation-là.
Puis là, il y a un peu le truc de prendre l'inverse des choses, puisque la vitrine, on regarde toujours à travers une vitrine. C'est juste là, on inverse le sens à travers lequel on regarde.
Et comment éprouve cette situation, le public, à l'intérieur, justement, de la vitrine ?
Il y a autant d'éprouvés que de personnes. Mais on a, pour les choses qui reviennent, c'est souvent que finalement, on prend pas beaucoup de temps pour regarder, pas beaucoup de temps pour être en lien avec l'endroit où on est aussi, le sentir, que les choses, des petites choses peuvent être parfois assez spectaculaires finalement. Des questions. Alors peut-être qu'avec la situation du confinement, ça a peut-être un peu changé. Voilà, ça nous questionne aussi, ça. Savoir un peu si le regard des gens, il peut avoir un peu bougé par rapport à ça.
Ce spectacle actuellement, ou performance, là, est au ralenti dû à ce confinement et ce déconfinement progressif. Mais est-ce que, je pense, vous serez amené assez rapidement à avoir d'autres propositions, je suppose? Ou alors c'est très long à trouver des dates, trouver des lieux qui puissent vous recevoir?
Là, on a tout ce qui était prévu à l'automne. Je suis perdue dans les saisons. Au printemps, qui est reporté à l'automne. Donc, à l'automne, on sait déjà qu'on va être à Bordeaux, à Saint-Gaudens, à Grenoble. On espère qu'après, on va le tourner plus loin.
C'est la compagnie Les Harmoniques du Néon. C'est une collaboration que vous pratiquez depuis combien d'années?
Au départ, c'est Anne-Laure qui a créé la compagnie. Avec une autre personne, Daniel Arditi. Et moi, j'ai intégré la compagnie en septembre dernier.
Mais depuis 2016, on travaille beaucoup ensemble. On a monté plusieurs projets, des spectacles, des projets avec des groupes de personnes amateurs. On a fait plusieurs, soit des créations sonores radiophoniques, soit des spectacles, des performances, des installations. On a un petit catalogue, un petit répertoire, toutes les deux.
Anne-Julie Rollet, vous êtes intermittente du spectacle, artiste de spectacle vivant. Vous avez d'autres possibilités aussi, d'autres facettes?
Notamment ce qui concerne ce qu'on appelle la musique électroacoustique, de la musique de support. Donc le travail plus de bande, on dit plus de bande, mais ça me revient toujours, de composition sur support. Donc effectivement, soit dans le cadre de radio, où on a fait récemment avec Anne-Laure une installation sonore. Donc il m'arrive de faire des choses, de composer.
La musique concrète?
Tout à fait, la musique concrète.
Et ce qui vous amène à travailler de cette manière avec, justement, Vitrine?
Oui, avec des outils notamment... numérique et analogique, je travaille avec un magnétophone à bande et aussi un ordinateur et une interface. Enfin, voilà, il y a plusieurs. Je mélange les outils numériques et analogiques et les micros.
Anne-Laure Pigache, pareil, même question, intermittente. Quel a été votre parcours dans ce domaine?
Sinueux, avec plein de détours, d'impasses, de recommencements. Moi, je suis comédienne, on va dire. Enfin, je ne sais jamais quel mot utiliser parce que je n'ai pas fait d'école. Je n'ai pas de formation initiale. Je me suis formée en pratiquant avec beaucoup de collaborations. Et peut-être comédienne, c'est là que je vais rester parce que mon outil principal, c'est la voix. Du coup, parfois, je fais des projets où il n'y a que la voix. Du coup, des choses avec la radio, je m'intéresse beaucoup au langage et à toute la musique qui est dans la langue, parce que comme j'ai une petite complexe d'infériorité de ne pas avoir fait les études de musique, j'ai réalisé à un moment donné qu'en fait quand on parle, on est dans des structures musicales hyper complexes qu'on peut partir de là aussi. Et puis je travaille, je suis aussi performeuse, dans le sens où je travaille avec des compagnies menées par des chorégraphes, notamment la compagnie Jeanne Simone, qui est une compagnie qui travaille dans l'espace public. Voilà, donc j'allie le son et la performance aussi corporelle.
Il y a une alliance avec l'art, l'art plastique et l'art scénique chez vous?
Une alliance l'art plastique et l'art... Oui. C'est assez transversal, effectivement, parce que, en fait, à partir du moment où on considère que le son, c'est un matériau, comme la voix, que être musicien, c'est aussi, par exemple, pour Anne-Laure, être en présence sur l'espace public. Donc, c'est en même temps comédien, mais en même temps musicien. Enfin, il y a des... Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais il y a... En fait, on se pose d'abord la question de qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et après, on a des, effectivement des outils qu'on a plus ou moins glanés par ici, par là, ou formés, par, ou appris sur le tas. Et à partir de là, on met ces outils en œuvre et notre intention pour faire quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez transversal.
Je suis d'accord avec ma collègue. Après, avec notre installation qui s'appelle Le bord de la bande, où en fait on installe une toile de 40 radios qui sont suspendues, là pour le coup on est un peu plus proche de... Il y a un objet qui est exposé qui est plein de radios, et après nous, dessus, on a fait un... dessus, ce qui est diffusé sur les radios, c'est une pièce sonore qu'on a fait... avec d'autres personnes qui vivent des rapports d'écoute, un peu, comment dire, des rapports de perception à l'écoute qui extrasensible, on va dire. Et du coup, c'est le son qui nous y a amené, mais l'objet, il est hyper, hyper présent, quoi. Et puis, c'est super beau de voir 40 radios, 40 transistors suspendus. Donc là, c'est aussi des endroits où on peut dire que c'est un travail plastique. Mm.
Si vous êtes en recherche de dates, ou si justement des organisateurs recherchent votre participation, est-ce qu'il y a des contraintes techniques impératives pour cette performance ?
Pour Vitrine ?
Oui.
Bah, il faut une vitrine. Une vitrine avec de l'électricité.
Oui.
Principalement. Après, nous, on est assez autonomes quand on peut venir avec le matériel, mais ça, c'est pas rien.
Comme contrainte, en fait, on se rend compte que c'est pas rien. Même s'il y a plein de vitrines abandonnées, c'est pas si évident de trouver une vitrine pour y faire des choses.
Je disais donc tout à l'heure, vous étiez intermittent du spectacle. Comment se passe aujourd'hui la vie d'un intermittent du spectacle ? Dans quelle mesure peut-on parler de sérénité ?
Moi, je disais tout à l'heure à Mathias qui nous aide, là, Mathias Forge, qui fait Regard extérieur, qui est aussi programmé là, ce week-end. En fait, c'est hyper bizarre parce que j'ai eu l'impression de... c'est la première fois que je retravaille dans l'espace public depuis le confinement. Et en fait, de sentir profondément comment on a reçu et intégré, incorporé une injonction au retrait, au repli, dans nos possibilités de mouvement, de mobilité et un retrait aussi de comment on s'expose dans l'espace public, même dans des petites choses de tu vas faire tes courses et puis tu fais attention comment tu te positionnes par rapport aux autres, de sentir son territoire personnel extrêmement replié, de pas envahir, d'être attentif à pas envahir l'en commun, l'espace de l'en commun, et que là d'un point de vue vraiment du corps somatique, c'est pas rien de se redéployer et d'oser, là, dans le carrefour où on travaille, d'oser se redéployer, redéployer ses perceptions, de dire, bah là, en fait, je viens rencontrer ton territoire, toi qui es assis à une terrasse du café ou qui es assis là, et de retisser ça, je me rends compte, mais là, c'est un ressenti physique que j'avais pas mesuré, parce que forcément, on a beaucoup réfléchi, on en a beaucoup parlé de ce que ça nous faisait mentalement, comment... Qu'est-ce que ça nous est pensé du monde, des relations ? Mais là, c'était hyper étrange, là, cette semaine, Adi, de sentir physiquement, en fait, que ça m'avait impacté à ce point. J'avais pas mesuré.
Mmh. Mais là, du coup, on parle plus du travail que de l'intermittence, parce que l'intermittence, c'est hyper large. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses différentes. Enfin, je dis juste... nous, c'est vrai qu'on parle plus de notre travail, finalement. L'intermittence, c'est une indemnisation... des acédiques, quoi.
Quand même une certaine inquiétude ou pas ?
Comment dire ? Ouais, une inquiétude plus... par rapport à l'intermittence, c'est ça votre question. Il y a toujours... Bon, bah, il y a toujours cette... ce danger de voir un peu ces systèmes... en déliquescence, mais C'est vrai que moi, je serais plus aussi à parler du travail, de notre travail, comment il est mis à mal par des injonctions politiques ou des problèmes climatiques, enfin, je sais pas, des choses plus reliées à la société, quoi.
Oui, c'est une inquiétude. Déjà, avec Vigipirate, ça a été quand même bien impacté. Dès qu'on essayait de faire des trucs dehors, on s'auto-censure vachement, on est tout le temps... Enfin, il y a un truc... qu'on sent chez soi et chez les autres, les passants, tu sais, ce truc de... même, il y avait un moment donné, dans le métro parisien, une phrase horrible, c'est que si on remarque quelqu'un qui a un comportement anormal, qu'on peut téléphoner pour prévenir. Enfin, ça, c'est quand même hallucinant de se dire que ça y est, ça fait partie de notre paysage. Et là, ça rajoute une couche de ne pas savoir comment on est ensemble dans les espaces communs, quoi. Moi, c'est plus ça que sur l'intermittence, précisément. Pour l'instant, moi, quand je parle avec des auto-entrepreneurs, je me dis qu'on est hyper bien lotis, pour l'instant, parce qu'on est une corporation forte. Et puis qu'avec les mouvements qu'il y a eu en 2003, on a gagné des choses, quoi. Où les plasticiens, ils galèrent. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas les plus mal lotis. Après, c'est dans quelles conditions on va pouvoir... jouer. Là, il y a un lieu qui nous... À Saint-Gaudens, les Pronomades, qui est un lieu des arts de la rue, eux, ils ont décidé que tant qu'il y avait l'interdiction de manifester, tant qu'il y avait l'interdiction de rassemblement, ils annulaient toutes les programmations dans l'espace public, parce que ça n'a pas de sens. On ne peut pas, d'un côté, avoir un Premier ministre qui nous dit « Ah, on n'a pas le droit de faire des manifs ou de se rassembler, et puis faire des spectacles. » Ça n'a pas de sens, quoi.
Un spectacle sans toucher, puisque c'est la situation. Est-ce que ça l'impacte justement dans la représentation?
Un spectacle sans toucher.
Sans le sens du toucher.
Non, mais la vie sans le sens du toucher, je pense que en fait, c'est pas possible. Hein. Au-delà du spectacle, c'est-à-dire quand on peut pas être en relation avec les corps, on peut pas s'approcher, c'est la mort, quoi. C'est hyper mortifère. Spectacle ou pas spectacle, en fait. Je trouve que c'est ça qui est questionnant quand même.
Pour la fête de la musique, est-ce que vous vous êtes vu ou entendu chanter une chanson pour Ma drôle de vie?
Hein? C'est quoi Ma drôle de vie?
Une chanson de Véronique Sanson que le ministre de la Culture souhaitait à ce que les artistes à 20h, ce jour de la fête de la musique, interprètent à travers toute la France. Vous n'avez pas fait
ça? Voilà, on y est. Bah non, je ne savais pas que ça avait été proposé. Et ben voilà, on n'aurait qu'à tous faire la même chose et puis comme ça, ce serait simple.
Ouais, je l'ai écouté et c'est un air très prenant. Hein. Ça vous trotte dans la tête pendant des heures après. Hein. Faut s'en méfier. Vous avez d'autres représentations ou d'autres spectacles avec les harmoniques du néon?
Oui. On va peut-être pas faire tout ce qu'on a, mais...
À venir, tu veux dire?
Disons prochainement, on ne sait jamais si des Diois iraient sur Grenoble ou d'autres lieux.
Bah là, c'est le bazar. Hein.
Oui. C'est un peu le bazar. Si on dit quelque chose, on n'est pas du tout sûr qu'on va le jouer. Pour le moment...
Bah si, en septembre à Saint-Gaudens, Vitrine, oui. En octobre à Bordeaux, à Grenoble également.
À Paris en novembre.
À Paris en novembre. Vitrine pour l'instant, c'est celui-là qui tourne.
Nous sommes dans un village, à peu près de 5000 habitants maintenant. Comment est la vie dans une grande ville comme Grenoble? Et qu'est-ce qu'il y a encore moyen d'y faire?
Vous voulez parler par rapport à la situation actuelle?
Par rapport aux arts, oui, par rapport à ce confinement et à ce déconfinement. Surtout au déconfinement, parce que le confinement, c'est passé.
Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a plus de... Très concrètement, des espaces, les espaces sont plus grands, il y a beaucoup d'espaces extérieurs. Quand on est arrivé, Marcel Maurice, qui fait partie des gens qui organisent les réjouissances, nous a dit qu'il y avait déjà eu des petites propositions de concerts ou de spectacles dans des jardins, du coup avec très très peu de gens autour de lui. Et par exemple, à Grenoble, moi, j'avais pas encore... j'ai pas entendu parler d'aucune proposition, mais parce qu'on habite dans des espaces beaucoup plus petits et que du coup c'est plus compliqué. Enfin, à part les bars, pour l'instant c'est encore compliqué de proposer des concerts ou des rassemblements, je sais pas. Et après, c'est pas si différent non plus. la vie à Grenoble et la vie à Die avec le Covid. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de recul, là. Savoir comment ça reprend. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, quoi. Après, je suis désolée, je ne sais pas trop, là, ce qui nous attend. Bon, après, il y a quand même le Puy du Fou qui a rouvert, donc a priori, on pourrait bien 5000 à se rassembler.
Vous êtes amis avec Macron?
Vous avez bien deviné, j'ai l'impression.
Alors, pour le lieu, on le tait hein, dans cette émission, puisqu'il sera indiqué lors de l'appel que les auditeurs passeront pour réserver sa place donc, à cette performance intitulée Vitrine, et qui se déroulera donc samedi, je le rappelle, sur 5 heures différentes, 10h, midi, 15h, 17h, 19h. Eh bien, vous avez un site internet aussi, je suppose, pour pouvoir découvrir ce que vous avez en création.
Oui, on a deux sites, on a chacune son site. Avec nos noms, il faut taper nos noms, Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache, et on tombe sur nos sites respectifs.
Les harmoniques du Néon n'ont pas de site.
On n'a pas de site encore.
Très bien. Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache, je vous remercie toutes les deux d'être venues nous parler de votre spectacle et puis de votre art.
Merci, merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Merci à Radio Diwa.
Qu'est-ce qui fait trace en vous? Qu'est-ce qui vous reste? À qui avez-vous laissé ou plutôt à quoi vous avez emprunté, de quelle empreinte vous faites partie? Bon, à quelle empreinte avez-vous adhéré? Laquelle avez-vous laissé ou plutôt laquelle avez-vous emprunté pour un moment, déposé plus loin? Qu'est-ce qui fait trace dans les lieux que vous traversez? Qu'est-ce qui reste? Ou plutôt, qu'est-ce qui reste en vous? Qu'est-ce qui reste tout autour de vous? Dans le creux de votre main, par exemple, qu'est-ce qui reste
la valise, le vélo et la trottinette. Top. Faites entrer l'homme en cuir et les deux cyclistes. Chacun part de son côté. Oui, oui, les anciens sportifs, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Faites entrer l'homme pressé. La jeunesse, la famille recomposée. Préparer la femme qui revient. Top. Elle va marcher en diagonale. Faire le point. Et rejoindre la foule.